Le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission présentée par Capital et Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 58e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Voilà, déjà 58 numéros. On est ravis d'être avec vous. Chaque mois, on décrypte l'actu immobilière et on vous donne les clés pour vendre, acheter ou même louer. Comme chaque mois, je suis avec mon confrère Guillaume Chazoulière. Comment ça va, Guillaume ?
Très bien.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du site Capital, rédacteur en chef. Et en ce mois-ci, Guillaume, on va parler justement d'un sujet majeur, la rénovation énergétique.
Et oui, donc ce mois-ci, on va s'intéresser à la rénovation. À la rénovation, pourquoi ? Parce que les aides MaPrimeRénov le curseur a bougé en début d'année, on va dire ça comme ça, plusieurs fois. Alors l'idée, c'est de faire le point sur quelles aides avez-vous droit selon vos travaux, vos profils, j'entends, vos niveaux de revenus. Et pour ce faire, nous avons deux invités de choix. Simon Corteville, responsable des services politiques d'adaptation de rénovation énergétique de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat.
Bonjour.
Voilà, qui est en charge de conseiller les particuliers sur notamment cette aide de rénovation énergétique.
Bonjour. Exactement, bonjour. Conseiller et financer MaPrimeRénov d'ailleurs.
Voilà, et Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio, un spécialiste de la maîtrise d'énergie, des travaux de rénovation énergétique, qui est là pour vous aider aussi à faire vos travaux, c'est ça ?
C'est ça, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir.
Merci également d'être présent sur le plateau et comme chaque mois, les amis, c'est l'usage, ça vous concerne en trois parties. Les experts vont répondre à vos questions, c'est vous-même qui d'ailleurs les posez, sur le club Facebook des proprios géré par nos amis de Capital. Voilà, c'est parti pour ce 58e numéro, on se retrouve tout de suite après ça.
Le grand témoin.
Alors, on le sait, les aides de la rénovation énergétique ont fait couler beaucoup d'encre en ce début d'année. C'est le moins qu'on puisse dire, entre les annonces politiques des uns et des autres, quelques rétro-pédalages que l'on a vu et qu'on n'a pas manqué, effectivement, de fustiger pour certains. L'idée, les amis, c'est que on va essayer, tenter, avec en étant résolument constructif, de vous donner les clés de lisibilité sur la rénovation énergétique. Bonjour Simon Corteville. Vous êtes le responsable du service politique adaptation de la rénovation et de la rénovation énergétique au sein de l'Agence nationale de l'habitat. Et enfin, Pierre-Marie Perrin, on a l'habitude régulièrement sur les plateaux, directeur des affaires publiques d'Elio, qui est un acteur majeur aujourd'hui spécialisé dans l'énergie et les travaux de rénovation énergétique. Et on va évoquer donc tous ces sujets en vous posant les premières questions. Il est de tradition, messieurs, dans cette émission, que la première question soit posée par Guillaume.
Oui, alors bonjour messieurs. On rembobine, MaPrimeRénov devait être rabotée en début d'année, enfin rabotée, recentrée sur les rénovations globales pour diminuer les rénovations par geste. Finalement, ça ne sera plus tout à fait le cas. Ça mérite de faire le point. Et je voudrais vous poser une question assez simple à tous les deux, assez générale en même temps pour commencer. Quels sont les travaux aujourd'hui qui restent éligibles à cette aide publique ?
Alors, MaPrimeRénov, déjà petit retour pas de côté, c'est depuis 2020, on a financé plus de 2,4 millions de rénovations. Donc on voit que ça a quand même pris beaucoup d'ampleur depuis 2020. L'objectif qui était visé, donc qui est visé pour cette réforme en 2024, ça a été de se dire qu'on finance déjà beaucoup de gestes de travaux, que ce soit des gestes de travaux d'isolation, de changement de système de chauffage. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin sur de la rénovation qu'on va appeler ambitieuse, globale. Quand on dit globale, ça veut dire qu'on va faire en même temps le toit, les fenêtres, les murs, le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Enfin, chacun suivant son besoin, parce que finalement, chaque logement a un besoin différent. Et l'objectif, vraiment, ça a été d'aller beaucoup plus loin là-dessus. Quand on regarde sur les chiffres l'année dernière, on était autour de 70 000.
C'est ça qu'on appelle les travaux d'ampleur.
Exactement. Les rénovations, les travaux d'ampleur, les rénovations.
C'est un terme utilisé. Donc, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de rénovation d'ampleur, c'est ce que vous dites.
Exactement.
Les planchers, les fenêtres, les combles, l'extérieur. D'accord, ok. Au lieu de faire un geste, on les fait tous en même temps.
Exactement. Jusqu'à présent, on était plutôt en volume sur du geste et on avait autour de 70 000 de ces rénovations d'ampleur. L'objectif pour janvier, ça a été de vraiment massifier très fortement sur ces rénovations d'ampleur. Et je vais prendre un chiffre. Précédemment, ces rénovations d'ampleur, on les finançait à hauteur de 50%. On peut monter à 80, voire 90%
de subventions.
On est tous éligibles en subvention. On peut tous, tout le monde y est éligible, quelles que soient les ressources, si on est occupant, si on loue son logement, etc. Donc voilà, ça a été l'objectif premier. beaucoup plus de financement. Et bah, pour faire un peu le tout, bah, on n'est pas expert. Et je pense que la plupart d'entre nous, dans le logement, par quoi on commence, on se dit, bah, j'ai une fenêtre simple vitrage, je vais peut-être faire ça. Mais le reste, à part ça, voilà. Donc le sujet, c'est de se dire, il faut être accompagné. Comme on va voir le médecin pour se dire, c'est quoi le problème du logement dans l'ensemble. Mmh. Et c'est ce qu'on a appelé le parcours accompagné pour ces rénovations d'ampleur. C'est de se dire, en fait, on va avoir quelqu'un neutre, indépendant, qui ne va pas être l'entreprise travaux, qui va venir, qui va faire un audit et qui va indiquer, au regard de votre profil, ce serait quand même bien de commencer par l'isolation, la toiture, les fenêtres, voilà, par rapport au logement. Vous pouvez avoir ces aides-là et un peu aider à comment aller sur ces rénovations d'ampleur. Parce que si on est tout seul, bah, quand ça se chaudière à lâcher, on sait qu'il faut la changer, mais la vision plus globale est plus compliquée. Donc c'est, ça a été ça, l'objectif majeur en janvier.
C'était au départ, et après on est revenu dessus. On a, alors, justement, ça veut dire que l'opération par geste, elle n'est pas complètement exclue.
L'opération par geste est toujours possible, a toujours été possible dans la réforme. Ce qui a été posé sur la rénovation par geste, et pour vraiment aller sur ces rénovations d'ampleur, ça a été de se dire que pour la rénovation par geste, de la restreindre quand on est sur des logements avec des étiquettes énergétiques plus favorables, en se disant, si on est vraiment dans les passoires thermiques, donc des logements vraiment mal isolés, il faut aller sur cette rénovation d'ampleur. Mmh. Donc ça a été l'enjeu qui a été posé en janvier. Il y a eu des ajustements suite à des échanges avec l'écosystème pour prendre le temps de préparer la réforme, pour se donner aussi plus de temps là-dessus, qui a été de se dire que tout ce que j'ai évoqué sur la rénovation d'ampleur, ça reste possible et ces financements, ils continuent à être proposés aux ménages et ils continuent à être beaucoup plus avantageux d'ailleurs en termes de taux de financement si on fait l'ensemble que si on fait juste un geste. Le point d'ajustement, c'est que finalement, comme ce qu'on connaissait sur MaPrimeRénov' l'année dernière, on peut continuer à faire des gestes d'isolation, de changement de chauffage, etc., même sans avoir forcément fait un DPE au début. Donc le DPE, c'est pour connaître l'étiquette de son logement, même quand on est dans des logements en
D'accord, donc on
FG, c'est
pour faire
un
simple,
délai
voilà, on retourne au geste et on verra dans le détail.
Le geste est possible.
Donc, isolation, pose de chaudière, concret, hein, faut être concret. Ouais. Isolation, pose de chaudière, j'en passe, tout ça, c'est encore possible pour n'importe quel profil.
Le geste est possible. Enfin, on peut continuer D'accord. comme l'année dernière d'avoir des gestes, mais la réforme n'est pas
Alors,
mise en question.
Préciser, voilà. On va préciser.
Vous voulez revenir sur sur deux choses si c'était possible.
Et on va rentrer dans le détail.
L'ambition
après.
Des rénovations d'ampleur et globale, c'était 200 000 là, qui avait été annoncée en fin d'année dernière. Et là, avec le réajustement du gouvernement, on est à 140 000. Donc, c'est un petit peu moins, même beaucoup moins même. Donc, ça, c'est un sujet. Et puis, la deuxième chose, c'est que on prolonge le monogeste à partir du 15 mai prochain jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, à partir du 1er janvier 2025, normalement, ça ne sera plus en vigueur. Donc, en fait, on remet le monogeste pour un peu plus de 6 mois. Donc là, il y a quand même une question, et on voit que la FFB et les principales fédérations des artisans...
FFB, Fédération des artisans et du bâtiment.
...avaient commencé déjà à recritiquer ce qui avait été mis en place et trouver que 6 mois de retour au monogeste n'était pas suffisant. Donc je pense qu'il y aura d'autres évolutions.
MaPrimeRénov' est conditionnée à des types de travaux réalisés selon les critères de revenus. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de travaux qui restent particulièrement bien subventionnés par rapport à mes différentes tranches de revenus? J'ai 4 catégories ou 3 catégories de revenus, je crois. Donc, chaque catégorie, qu'est-ce que j'ai le droit de faire en termes de rénovation globale, rénovation par geste?
Alors, il y a 4 catégories de revenus, donc avec des couleurs adaptées. Vous pouvez trouver sur Internet les critères et je ne vais pas y revenir en détail. Donc, il y a 4 catégories de revenus et les financements, soit les gestes, ce qu'on évoquait, soit les rénovations d'ampleur. Les rénovations d'ampleur sont mieux financées que l'année dernière. Et si je prends des exemples...
Quelle que soit la catégorie de revenus.
Quelle que soit la catégorie, toutes les catégories sont éligibles à la rénovation d'ampleur, que l'on soit très modeste, que l'on soit aisé, avec des taux de financement qui vont de 30-40% pour les ménages les plus aisés jusqu'à 80 voire 90% suivant les ressources.
Donc très bien.
Même quand on est aisé et qu'on a du financement, on peut aller faire jusqu'à 70 000 euros de travaux si on prend le logement dans son ensemble et avoir 40% de taux de financement, ce qui est quand même un financement conséquent.
Une définition globale, c'est quoi? C'est 3 travaux, c'est 4, c'est...
Si je caricature un peu,
simple.
Le DPE, c'est une étiquette. C'est notre logement, il est A, B, C, D, E, F, G. Si on augmente d'au moins 2 lettres. Donc, par exemple, si on était en G et qu'on
D'accord.
arrive en E, on gagne 2 lettres.
D'accord. Voilà, et donc, pour ça, il faut un bouquet de travaux qu'on définit avec un spécialiste.
Voilà, c'est des gestes d'isolation, du chauffage.
Maintenant, dans chaque catégorie, j'ai le droit de faire aussi du monogeste. Sous quelles conditions? Est-ce que ça diffère selon les niveaux de revenus?
Alors, pour les catégories sur du monogeste, C'est ouvert, et c'était déjà le cas en 2023, aux ménages des trois premières ressources. Pour les ménages aisés, l'objectif, c'est vraiment, plus de financement, de pouvoir aller sur ces rénovations d'ampleur. Mais les ressources, que ce soit plus modestes ou intermédiaires, on va avoir ces gestes au financement qui vont financer soit du système de chauffage, soit de l'isolation, soit du changement d'eau chaude sanitaire, avec des forfaits qui vont dépendre en fonction de ces ressources
et du type de chauffage. Et ce n'est pas conditionné à deux travaux, un travaux, c'est
on y a
je peux faire de l'isolation, changer ma chaudière si je suis dans les trois niveaux, premiers niveaux de revenus.
Exactement.
J'ai quelques exemples chiffrés. Oui. Si vous changez votre pompe à chaleur géothermique, si vous êtes un ménage bleu, vous avez le droit à 11 000 euros.
Bleu, c'est quoi?
Bleu, c'est les ménages les plus, qui ont un revenu les plus bas, les plus faibles.
D'accord.
11 000 euros. 9 000 euros pour les ménages jaunes. Et 6 000 euros pour les ménages violets.
Les plus élevés.
Exactement. Enfin, il y a encore une autre catégorie qui n'est pas soumise. Si vous mettez un système solaire combiné, les ménages bleus, 10 000 euros.
C'est quoi un système solaire combiné?
Alors, c'est un peu technique, mais vous récupérez la chaleur grâce à des panneaux solaires.
Ça, okay.
Et après, c'est stocké dans des ballons. Et voilà, ça permet de chauffer.
Ça fait l'eau chaude de la douche et le chauffage.
Voilà. C'est très simple pour ceux qui nous écoutent.
10 000 euros pour les ménages bleus, 8 000 euros pour les ménages jaunes et 4 000 euros pour les ménages violets.
D'accord.
Et vous avez également aussi les poêles à bois. On en a beaucoup parlé, mais il y a eu une modification au 1er avril avec une baisse de 30%, mais ça reste toujours intéressant. 7 000 euros pour les ménages bleus, 5 500 euros pour les jaunes et 3 000 euros pour les ménages violets. Donc c'est des exemples.
Bon, c'est très clair, c'est précis.
Et peut-être d'un point de vue très pratico-pratique, on est tous dans une situation différente, on n'a pas les mêmes besoins de travaux, on n'a pas les mêmes ressources, etc. Et on a plein de questions tous, et comme on ne fait pas des rénovations tous les jours, on a plein de questions. L'ANA met en place France Rénov, service public, neutre, gratuit, indépendant, mis en place avec les collectivités, france-rénov.gouv.fr. On peut avoir un rendez-vous avec un conseiller, il y a 550 espaces partout sur le territoire, et le conseiller il va nous expliquer c'est quoi notre sujet, c'est quoi le problème de notre logement, c'est quoi les gestes.
C'est pas l'accompagnateur Rénov.
Là, l'enjeu, c'est vraiment cette information.
Ok, mais mon accompagnateur Rénov, c'est lui? C'est le conseiller ou c'est ensuite à la mise en œuvre des travaux?
L'accompagnateur Rénov, là, on va dire que c'est le premier conseiller. On a une question, on l'appelle. D'accord. Et il va pouvoir nous dire.
Okay. C'est le premier contact.
Voilà, c'est le premier contact.
Ok, sur la.
C'est neutre, c'est gratuit, sur indépendant. Voilà, l'accompagnateur Rénov, c'est la personne
c'est
qui est derrière.
On peut avoir. Rénov, vous dites.
Alors, voilà, c'est les maisons France Rénov.
Juste une question. Quel que soit le type de travaux que j'entreprends, ma prime Rénov reste cumulable. Avec d'autres dispositifs.
Exactement, elle est cumulable avec plusieurs dispositifs, notamment le dispositif des certificats d'économie d'énergie,
ouais.
Qui est une aide privée, ouais. Qui est payée par les fournisseurs d'énergie, qu'on ne connaît pas très bien.
C'est quoi un C2E? C'est quoi un certificat d'économie d'énergie? Simple, pour qu'on puisse bien comprendre.
J'ai jamais su répondre clairement.
Alors, très simplement. Déjà, il faut dire que c'est un dispositif qui est régulé et réglementé par l'État. Mais payé par les fournisseurs d'énergie. Donc, l'État a dit aux fournisseurs d'énergie, à Total, à EDF, vous allez avoir une obligation de faire baisser la consommation énergétique de vos bénéficiaires. Et pour cela, pour inciter des ménages, des entreprises, des collectivités territoriales, vous allez verser une prime. Quelqu'un va réaliser les travaux. Et lorsqu'ils sont réalisés, avec un dossier qui est extrêmement bien bordé, vous récupérez un certificat d'économie d'énergie et le fournisseur, dans une période d'obligation, doit remplir un volume d'obligations pour de certificats d'économie d'énergie. Et c'est ce qui permet de financer la transition énergétique. C'est même le premier dispositif.
C'est aujourd'hui ce quasiment plus puissant que
6 milliards d'euros aujourd'hui.
Mmh. Mais c'est le pollueur qui paye, quoi, en fait.
C'est un peu le système du pollueur-payeur.
Et donc ça vient D'accord. en plus, comme disait Sylvain, de ma prime Rénov.
Donc, ça vient en plus.
Le fameux accompagnateur ou France Rénov ou vous-même qui allez nous le conseiller et vous dire voilà, j'ai le droit en plus à ça selon mes travaux.
Exactement. Et puis vous avez également les collectivités locales qui elles aussi abondent en fonction de leur projet. C'est à la discrétion de la collectivité territoriale et elle vient apporter d'autres financements qui sont cumulables pour les ménages, pour les entreprises.
Alors, okay.
Pardon, j'emboîte sur une question qui est une question d'actualité. On a préparé cette émission, vous l'avez préparée, Guillaume, mais vous avez évoqué les retards. Je vous cite, retard dans la délivrance de C2E. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Alors, vous avez un sujet qui est, j'en parlais tout à l'heure, c'est 6 milliards d'euros, donc c'est un dispositif qui est
lourd,
énorme, et qui me finance énormément. Et l'administration qui contrôle notamment les dossiers et qui travaille sur ces certificats n'a pas forcément le nombre suffisant pour étudier bien les dossiers et donc délivrer ces certificats d'économie d'énergie. Et en plus, il y a la question de le gouvernement souhaite mieux contrôler ces dossiers et
vous
c'est très bien.
Les abus
il peut, Oui, il y a eu des fraudes, notamment à la rénovation énergétique, on en a entendu parler. Et donc l'État avait mieux contrôlé, et ça c'était extrêmement bien. Mais en revanche, vous avez des artisans qui travaillent très bien, ça finance très bien, et il ne faut pas arrêter cette dynamique-là.
Vous voulez dire que ces financements-là sont à l'étude, contrôlés, et que ça retarde les paiements des artisans, quoi.
Des artisans, effectivement.
Ah oui, sur le ça terrain. Peut retarder un peu tous mes travaux, quoi. Même ah oui,
ça retarde l'ensemble de la démarche et l'ensemble d'accord. de la chaîne de valeur. Et donc, c'est problématique et c'est un sujet...
Ça peut même provoquer des séismes économiques dans des entreprises qui n'ont pas la trésorerie suffisante pour tenir.
Complètement, il peut y avoir des défaillances d'entreprises et on le voit sur le territoire d'accord. national. Des artisans qui ont du mal à terminer leur fin de mois et à payer leurs salariés. Donc, c'est un vrai sujet. En plus, avec les problèmes de MaPrimeRénov, ou en tout cas les atermoiements qui ont eu lieu en ce début d'année, bah, c'est un autre sujet qui vient se cumuler. Et donc, il faut faire attention à ça.
Il faut l'avoir en tête.
Peut-être de manière très...
Est-ce que vous, Elio, vous êtes... Pardon, je vais revenir vers vous. Est-ce que vous, Elio, vous êtes impacté par ça ?
Toute la filière est impactée.
Vous aussi, en tant qu'entrepreneur.
En tant qu'entreprise, on attend effectivement cette question de délivrance des certificats d'économie d'énergie, comme d'autres concurrents, mais c'est surtout les artisans sur le terrain, et c'est pour ça que vous souhaitez alerter aujourd'hui sur cette situation.
Simon Corteville.
Oui, peut-être pour dire, alors, le mécanisme des C2E est un mécanisme assez spécifique, parce que c'est aussi souvent des marchés entre entreprises, etc. Et pour les particuliers, c'est pas toujours... Enfin, des fois, ça passe par des intermédiaires, de l'artisan, etc. Mais peut-être pour me dire, d'un point de vue aussi particulier... De toute façon, quand on fait des travaux, déjà, savoir quels travaux on réalise, est-ce que je fais les bons travaux et quelle est la puissance de la pompe à chaleur que je vais installer, enfin, des questions techniques, des questions d'aide. Là, au niveau national, on peut dire MaPrimeRénov', on peut dire les C2E, mais le fait de savoir si la ville de Montluçon, de Rouen ou de Tours donne des aides, moi, depuis Paris, je ne peux pas forcément le dire aussi facilement. Donc, quelles aides auxquelles on a droit pour ne pas en oublier toutes ces questions, comment ça se passe? C'est pour ça qu'on évoquait les conseillers France Rénov', ils sont sur le terrain et ils vous donneront des aides pour ne pas les oublier.
Oui.
Une dernière question.
Ouais, donc ça, vous faites le lien avec la question que je voulais poser. Donc, et là, je vais peut-être vous mettre en concurrence, mais j'ai la question. Finalement, c'est quoi le process le plus simple pour justement accéder à la bonne information pour les travaux que je dois réaliser? Vous me parlez de France Rénov', donc je vais m'adresser à une de ces maisons. Voilà. Mais en même temps, j'ai envie de, moi, peut-être de frapper à la porte d'un Elio, d'un EFI, il y a plusieurs sociétés. Est-ce que vous êtes en concurrence là-dessus? Est-ce que...
France Rénov', c'est le service public. Et France Rénov', enfin, c'est pas France Rénov' qui fait les travaux. Derrière, il y aura
France
des
Rénov'
entreprises.
France Rénov' va me rediriger vers Elio.
Voilà. France Rénov', c'est le service public, c'est neutre, gratuit, ouais. indépendant. C'est gratuit, c'est neutre, indépendant. Okay. On va pas vous dire telle ou telle entreprise plutôt qu'une autre. Mais par contre, on aura tous les conseils pour savoir comment faire. Après, voilà, votre projet de travaux est pertinent. Contactez des entreprises. Il y en a plusieurs qui existent. Si vous voulez aller voir Elio, EFI, autres, peu importe. Enfin, finalement, nous, côté service public, c'est pas notre.
Mais c'est un peu le service que vous proposez aussi.
C'est une complémentarité, en fait. Ouais. Le service public, il est très important, notamment pour des ménages ou pour des personnes qui n'auraient pas accès à l'information. Et après, des entreprises comme la nôtre, elles sont en charge de réaliser l'ingénierie technique, l'ingénierie d'accord. financière, de conseiller, d'accompagner de A à Z tout au long du projet.
Et de trouver les bons artisans.
De trouver les bons artisans, et c'est la clé de voûte, de permettre aux ménages de bien prendre en main leur logement. Et puis surtout d'aller leur chercher les aides, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Alors, aide privée et publique.
Alors, c'est, oui, le nerf de la guerre, c'est... Merci pour la transition, parce qu'effectivement, pour vous les amis, on va rentrer dans le vif du sujet, dans la deuxième partie de l'émission avec nos experts. Merci Pierre-Marie Perrin et Simon Corteville de rester avec nous. On passe à la séquence, ça vous concerne, première partie, c'est une avocate qui va nous rejoindre dans quelques instants. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite après ça.
Ça vous concerne.
Eh bien voilà, de retour sur le plateau pour ça vous concerne. Première partie, on va poser la question à notre avocate préférée. Elle est avec nous sur le plateau en tant qu'experte, Maître Ganaël Soussens. Comment ça va, Ganaël ?
Bien.
Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Nous avons une question, Guillaume, qui nous a été posée du côté de Saint-Brieuc par François.
François, qui est propriétaire bailleur, Ganaël. Son locataire vient de quitter le logement et a priori, pas de dégâts. Mais François se demande combien de temps donc il a pour restituer le fameux dépôt de garantie.
Alors, il y a une règle qui a été dictée récemment par le législateur pour éviter justement les abus par les propriétaires bailleurs. François a un mois pour restituer le dépôt de garantie. Alors, il va le restituer intégralement s'il n'y a pas de dégradation, s'il n'y a pas de dette de son locataire à son égard. Et il peut également pratiquer des retenues si jamais il y a des charges de copropriété à venir, des dégradations, etc. Et j'invite François à être très scrupuleux sur le respect de ce délai parce que sinon, il encourt une pénalité qui est de 10% du montant du loyer par mois de retard. D'accord. Donc, ça peut aller assez vite. Et puis, petite alerte à l'égard des propriétaires bailleurs, l'état des lieux de sortie, ça se fait scrupuleusement. Ça se fait en plein jour, ou en tout cas dans un espace éclairé, et on prend le temps de le faire parce que En cas de difficulté, en cas de litige, le juge va comparer l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Et si d'aventure, le propriétaire bailleur a fait l'état des lieux un peu vite, le soir, le locataire était pressé, etc., n'a pas remarqué des dégradations importantes qu'il découvrirait par la suite, il ne pourra jamais les imputer à son locataire. Donc, un mois pour restituer, on respecte le délai et on est très vigilant quand on fait cet état des lieux de sortie qui est déterminant pour la suite.
C'est très clair.
C'est très très clair. Et effectivement, on prête jamais attention parce que souvent c'est pris comme une formalité. En fait, c'est un véritable acte de gestion. D'ailleurs, les propriétaires qui se sont fait un peu avoir s'en souviennent. Ensuite, on a une autre question direction Bordeaux. C'est Marinette qui pose une question sur justement son locataire.
Oui.
C'est pas bien.
Et Marinette, donc, elle s'est aperçue que son locataire avait sous-loué son appartement. Ça peut arriver. Et elle se demande comment, qu'est-ce qu'elle doit lui demander pour régulariser la situation, et surtout comment prouver, arriver à prouver qu'il a vraiment sous-loué, quoi. Quelle preuve
c'est pas évident à démontrer.
C'est pas évident à démontrer. Alors, il y a des propriétaires bailleurs qui ont réussi à le démontrer, notamment parce qu'ils ont trouvé l'appartement sur des plateformes d'annonces. Alors, sur la plus connue, avec un A et un logo rouge. Ouais. Et donc, ils ont reconnu l'appartement qu'ils louaient. Oui. Qui était proposé à des voyageurs par le locataire en titre.
Bon, ça, c'est pas très... c'est grossier. Mais ça se fait comme ça.
Il paraît que c'est une pratique qui se développe, malheureusement.
Ça arrive. Donc voilà, si elle a des soupçons, c'est assez facile. Elle connaît l'adresse du logement à Bordeaux, elle connaît les critères, elle peut commencer à vérifier là-dessus, sur cette plateforme ou sur d'autres. C'est un élément de preuve. Elle peut également le faire constater par huissier. Alors... c'est un peu compliqué parce qu'il vous mandate l'huissier, il vous facture à chaque intervention. Il faut être sûr que son intervention soit fructueuse. C'est-à-dire qu'il vienne le jour où il y a quelqu'un, etc. Bon, c'est pas évident. Mais la régularisation, elle aurait dû être faite a priori. C'est-à-dire que normalement, le locataire n'a pas le droit de sous-louer, sauf accord express, voilà, et préalable du bailleur en titre. Alors... le locataire peut demander au bailleur l'autorisation de sous-louer. Ils se mettent d'accord sur l'assurance, etc., les conditions de la sous-location. Régulariser a posteriori, c'est plutôt au locataire de faire la démarche à l'égard de son bailleur pour ça. Et s'il ne la fait pas, que Marinette obtient des preuves de la sous-location, elle va pouvoir faire plusieurs choses. Par exemple, solliciter la résiliation du bail, parce que c'est un manquement grave du locataire à ses obligations. Elle pourrait également même demander à percevoir le montant des sous-loyers que le locataire a indûment reçus, voire même des dommages à intérêts.
On sait que cette question va être fortement d'actualité, si elle ne l'est pas déjà, avec les JO de Paris, des questions de sous-location, donc méfiance.
On a même fait un papier, pas plus tard que la semaine dernière, une quinzaine de jours sur Sud Radio, dans lequel une personne s'étant aperçue que son locataire sous-louait à des travailleuses du sexe, à des prostituées.
D'accord.
Eh bien... le parquet a considéré que c'était du proxénétisme hôtelier, et donc a mis en détention provisoire la propriétaire qui elle-même avait dénoncé la sous-location.
D'accord.
Ce qui est quand même un non-sens absolu.
Je pense qu'elle trouvera un confrère pour la défendre.
Oui. Il y aura sans doute, bien évidemment, une difficulté. En fait, le parquet avait estimé que dans la mesure où elle percevait des loyers parce qu'elle avait un crédit à rembourser, sachant la solution, sachant la situation, mais c'est elle-même qui a interpellé la force publique et donc du coup, c'est jamais anodin ce genre de situation. Alors comment ça se passe ? C'est-à-dire que je signe le bail, c'est marqué interdit à la sous-location.
Ouais.
Si jamais je veux sous-louer et que je suis de bonne foi, je peux poser la question.
Effectivement, je peux demander.
Même si dans le bail c'est marqué interdit.
Ouais, bien sûr. Le bail c'est un contrat. Les parties qui sont convenues d'un contrat peuvent le modifier. C'est pas comme un contrat de travail, il peut y avoir un avenant. Il peut tout à fait bail d'habitation.
Donc
il peut
même
y avoir
si c'est interdit, j'appelle le propriétaire, il m'envoie un mail comme je vous autorise à titre exceptionnel de sous-louer pendant par exemple une certaine période. Ça oui, d'accord.
Après il y a des règles à respecter, notamment de s'assurer, parce que quand on a une assurance multirisque habilitation, ça ne couvre pas le fait d'avoir des sous-locataires. Donc il faut là aussi faire évoluer son contrat.
Est-ce que ça arrive souvent, cela ?
Que les locataires demandent ?
Oui. Non.
Alors,
c'est difficile à quantifier
parce que lorsque le locataire a demandé, l'affaire ne viendra pas devant une juridiction. Les affaires qui viennent devant les tribunaux, c'est les cas
lorsque
où
vous
le locataire
entendriez de certains propriétaires clients, ça peut arriver, mais c'est marginal en fait.
Ouais. D'accord. Et il y a une autre règle à laquelle il faut être vigilant, c'est que le locataire n'a pas le droit de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il doit sous-louer le prix au mètre carré, au prix où lui-même loue. Donc, si on est complètement dans les clous en qualité de locataire, ça a quand même moins d'intérêt que ce qu'on peut imaginer. Mais les règles sont celles-ci.
C'est très clair. Donc, grande vigilance et surtout alerter immédiatement et créer les circonstances de la preuve pour justement obtenir gain de cause.
Exactement.
Merci Ganaëlle Soussens. Je rappelle que votre cabinet est dans le 17e. On peut vous retrouver sur Ganaëlle Soussens, Soussens avocat. .com, tout simplement. Vous êtes dans le 17e arrondissement pour tous vos problèmes immobiliers. Merci d'être passé par le plateau. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de notre entretien.
Le grand témoin.
Voilà, on poursuit cette seconde partie, les amis, pour ce 58e numéro de la rénovation, sur la rénovation énergétique. Il n'a échappé à personne que ça devenait une priorité nationale. Voilà, on va aborder notamment l'éco-propriété, les problématiques bien particulières, avec nous toujours pour en parler. Simon Corteville, merci d'être resté avec nous. Vous êtes le responsable du service politique d'adaptation et de rénovation énergétique à l'Agence nationale de l'habitat. Merci également à Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio. Merci d'être toujours avec nous. Guillaume, on va parler maintenant des financements de la copropriété. C'est un sujet.
Et c'est peut-être le principal sujet d'ailleurs. Je le dis comme ça. Enfin non, mais enfin, il y a beaucoup de copro. Il y a combien de copro en France d'ailleurs? Il y a peut-être 8 millions de copropriétaires.
Je crois qu'on n'est pas loin de 8 millions de copropriétaires. Ouais.
Donc, gros sujet, en tout cas, sujet complexe. Alors, la rénovation, c'est un enjeu majeur et il y a un outil pour ça, c'est MaPrimeRénov'CoPro ou MaPrimeRénov'Copropriété, et qui reste, malgré tout, je crois que ça fait 2-3 ans qu'elle est lancée, peu sollicitée ou pas assez. Quels sont les derniers chiffres dont vous disposez sur sa distribution?
Alors, MaPrimeRénov'Copropriété, ça date de 2021. Ouais. L'objectif? Jusqu'à présent, l'ANA a aidé des copropriétés, mais finalement, certaines et avec des critères spécifiques. L'objectif, c'est d'aider toutes les copropriétés qui vont sur des rénovations énergétiques, mais vraiment toutes, avec une aide à la copropriété. Vraiment, toute la copropriété à l'aide, on vote les travaux en AG et l'aide se déduit de ce qu'on va payer pour les travaux. Et depuis le lancement, on voit qu'il y a une augmentation assez forte. On était en 2020 à 7000 logements aidés en copropriété, on était à 30 000 l'année dernière. Donc on voit que progressivement, on a fait x4 déjà, mais on va continuer à monter. Pourquoi ce délai aussi? Ça prend du temps, des travaux en copropriété. Enfin, pour ceux qui habitent en copropriété, on le sait, il faut voir une assemblée générale, se mettre d'accord, c'est tous les ans, etc. Donc, quand on est dans un logement, on se dit on y va, et le lendemain, on peut signer un devis. En copropriété, ça prend un peu plus de temps. D'où le fait qu'on soit à 30 000 l'année dernière, 3 ans après le lancement de l'aide, parce que c'est le temps de maturation d'un projet en copropriété. Il faut le temps de se mettre d'accord et de faire les études en copropriété. Donc on voit que maintenant on est sur une dynamique, mais les dynamiques et toutes les demandes sur les rénovations énergétiques dans toutes les métropoles, dans tous les territoires, sont très fortes. Et on voit que les dynamiques sont vraiment très hautes, puisque quasi tous les ans, depuis 2021, on double les chiffres.
Un complément?
En complément, je crois quand même que 80% des financements, 95% des financements de l'ANA vont vers le résidentiel individuel et qu'aujourd'hui c'est 5% qui va vers le collectif. Et puis il y a eu une réunion, je crois, avec votre président hier et l'UNIS. Et un projet de rénovation énergétique de copropriété, c'est 6 ans. Donc je sais, c'est de délai entre le début.
Ça explique le blocage de décision, parce qu'effectivement, on peut comprendre, il faut que ce soit voté par l'Assemblée. Première question, est-ce qu'il faut simplifier les règles, notamment de décision, de majorité? Et puis, si on devait déterminer les blocages et les freins, avec notamment cette distinction dans une copropriété entre les locataires, les propriétaires occupants et les propriétaires non occupants, qu'on pourrait appeler les propriétaires bailleurs.
Il y a un vrai sujet d'information du conseil syndical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un président de conseil syndical qui prend en main le sujet, qui va faire des devis d'abord pour avoir un très bon accompagnement, pour avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va accompagner tout au long du process. 6 ans, vous avez des propriétaires qui changent, vous avez des règles qui changent. Et donc, vous avez besoin d'avoir un soutien concret sur le terrain pour avoir accès aux aides, avoir accès aux spécificités techniques pour rénover la copropriété. Et tout ça, ça prend du temps, donc il faut simplifier, ça c'est une chose. Il y a aujourd'hui une loi qui vient d'être votée sur les copropriétés dégradées, qui va simplifier le vote des assemblées générales pour permettre un vote à la majorité simple, pour engager des travaux de rénovation énergétique.
Simple, c'est quoi, 51% des voix, c'est ça?
Exactement, après avoir déjà eu un premier vote où moins d'un tiers des copropriétaires auraient voté pour. Donc on pourra relancer une assemblée générale pour demander la majorité simplifiée et engager les travaux. Donc ça, ça simplifie pour les copropriétés dégradées. Pour les autres, ça prend du temps. Donc il faut être bien accompagné. Il faut avoir des gens qui sont motivés, qui s'inscrivent dans le projet.
Avant que le chantier démarre, avant qu'un premier chantier démarre, ou 6 ans pour et faire les travaux.
Enfin, peut-être pour dire un mot positif aussi. Enfin, avant 2021 et 2022, en fait, c'était très compliqué de lancer la rénovation parce que propriétaire occupant, on n'avait pas forcément le courage de s'y lancer. Quand on louait un logement, on n'avait pas forcément intérêt à faire
des obligations.
Là, il y a un intérêt qui est très fort. À la fois, quand on occupe le logement, on a envie de faire des travaux parce que le prix du gaz a augmenté, tous les prix ont augmenté. Deuxièmement, quand on loue un logement, il y a des obligations. Et en plus, les aides n'existaient pas avant. Elles ont été lancées en 2021. Il y a des aides et finalement, avec les aides, quand on a un ravalement à faire, ça va pas coûter beaucoup plus cher de faire la rénovation avec. Donc on voit qu'il y a ça, qu'il y a tout ça qui se met en place. C'est ce que j'évoquais sur les délais. En fait, les délais vont être un peu plus longs parce qu'il faut déjà se mettre d'accord en conseil syndical.
Il faut
2-3 ans avant de demander une aide. Puis après, ça peut être 1-2-3 ans de travaux en fonction de la difficulté.
L'ANAH fait beaucoup de travail là-dessus sur le financement. Et quand c'est cumulé avec les certificats d'économie d'énergie et d'autres aides, on peut arriver quasiment à 60%
de financement et décision. Et ensuite, une période de 1 ou 2 ans pour les travaux.
Voilà, ça dépend de chaque copropriété, etc. Mais
c'est quand même 5 ans. C'est pas simple.
Et alors, justement, on continue dans le concret. On en parle beaucoup, mais ça donne. C'est quoi, ma prime copro? Comment je la mets en place? Et ça me finance quoi comme travaux et à quelle hauteur?
Et est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont déposés avec même la rotation très longue?
Oui, on a eu 30 000 logements qui ont été. Alors, concrètement.
Oui. Voilà, comment ça marche?
Concrètement, comment ça marche? Il faut se dire qu'on va à un projet. Et la copropriété, c'est du collectif. C'est pour ça que c'est plus long qu'une maison. Parce qu'il faut y aller en collectif. Donc, comment on fait? On se met en collectif, on lance une étude. Déjà, il faut savoir quel est l'état de la copropriété, c'est quoi l'étiquette, est-ce qu'on est en passoire énergétique et donc il faut rénover? Donc, on lance une étude. En général, on a un an de se dire. Quel est le projet de travaux? On vote les travaux et ensuite on demande l'aide. Et MaPrimeRénov copropriété, cette étude va permettre justement de voir combien ça va coûter, quelle aide, quels sont les scénarios de travaux, vers quoi on s'oriente, etc. MaPrimeRénov copropriété, c'est une aide pour toute la copropriété. Globalement, ça aide entre 30 et 45% du coût total des travaux. C'est-à-dire, quand la copropriété va voter 1 million d'euros de travaux dans son ensemble, en fait, l'ANAH va donner à la copropriété de 300 000 à 450 000 euros. Donc, c'est-à-dire en fait que le tantième, enfin ce que va payer chaque propriétaire, va être réduit là-dessus. Donc,
plafonné.
Toute la copropriété ça va réduire du coût. Ce que j'évoquais tout à l'heure, des fois, ça va être même moins cher de faire la rénovation énergétique que seulement le ravalement. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près 3 ans là-dessus. Et puis après, les travaux s'engagent. Et aujourd'hui, on a 30 000 logements qui ont été financés l'année dernière et des rénovations de copropriété. C'est en forte hausse, tant dans l'intérêt qu'on a dans les conseils en amont, les études en amont, que dans les dossiers
qui arrivent. Quel type de travaux?
Alors, pour les travaux, c'est un peu comme j'évoquais en première partie sur la rénovation d'ampleur. Ça va être souvent de l'isolation. De l'isolation de toiture, ça peut être des changements de menuiserie, de fenêtres, du changement de chauffage quand c'est collectif, raccordement à un réseau de chaleur. Voilà, enfin c'est tout l'ampleur des travaux
de rénovation.
Et là,
c'est pareil, c'est global ou c'est un geste?
C'est global avec.
On peut faire un geste?
Alors, l'objectif dans l'ensemble.
L'isolation, je veux dire.
C'est un objectif un peu de résultat. C'est quand on calcule le DPE, en fait, ce soit une amélioration de 35% de la performance. C'est-à-dire une. Si je caricature un peu, une baisse de 35% des consommations énergétiques, si je caricature.
D'accord, donc il faut que je coupe les travaux qui arriveront à cet objectif, une baisse de 35%.
On va aller jusqu'à 50%.
D'accord.
Si on arrive à 50% d'économie d'énergie, d'accord. On a un financement qui est plus élevé. Si je ne me trompe pas, c'est 40%.
Et plus les travaux sont ambitieux, plus il y aura de financement.
J'ai pas compris, tout à l'heure, vous avez dit que ça finance jusqu'à 30 à 40% du montant des travaux, mais c'est quand même plafonné à un moment donné. Il y a une limite.
C'est plafonné à 25 000 euros par logement.
D'accord.
Mais. En général, on est en dessous.
Ouais, 25 000 euros par logement, c'est pas mal. D'accord.
Alors, on a l'efficacité, effectivement, du dispositif, puisque vous me confirmez si je me trompe, vous me dites, vous avez élargi le dispositif à la copropriété, c'était une nécessité, on est d'accord. Donc, ça veut dire qu'on a clairement une politique qui va de l'individuel au collectif, en sachant que là où le bât blesse vraiment, c'est dans le collectif. Est-ce que, justement, quand on est face, par exemple, à des habitats du style parisien, où on ne peut pas faire de la rénovation, par exemple, du ravalement par l'extérieur, par exemple, ou des problématiques d'isolation, on fait comment dans ces situations de blocage? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que, est-ce qu'il y a toujours la possibilité de réduire sa note énergétique en fonction de la structure du bâti. C'est une question qui revient souvent, surtout quand on sait que plus de 50% du bâti qui nous entoure sera toujours là dans 50 ans. Je vois sourire Pierre-Marie, il a une réponse.
J'ai une réponse, mais qui est une réponse qui est difficile à vous donner parce que c'est compliqué. Voilà. La question, c'est que l'isolation thermique par l'extérieur sur des bâtiments haussmanniens, il y a pas de solution. Donc c'est soit on va aller isoler dans les cours, soit on va faire de l'isolation thermique par l'intérieur. Mais bon, ça réduit la surface et dans des zones extrêmement tendues, dans les grandes métropoles, c'est compliqué. Donc il faut trouver des techniques avec des isolants qui sont plus fins. Il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. On espère qu'on va y arriver.
Et c'est pour ça qu'on commence par une étude.
Oui.
C'est pour ça qu'on commence par une étude parce que l'étude permet de le dire. Il y a des choses qu'on peut faire aussi dans son propre logement, isoler par l'intérieur, changer un chauffage, ou d'ailleurs, et même la loi sur l'interdiction. Voilà, on ne peut pas, la loi prévoit des dérogations quand on ne peut pas sur l'interdiction de location, mais il faut l'avoir justifié.
On peut avoir un exemple d'une dérogation possible?
Il faut l'avoir justifié. Et ça va dépendre, ça peut être des contextes patrimoniaux, par exemple, ce que vous évoquiez, où vraiment on ne peut pas. On ne peut pas faire par l'intérieur.
La sortie également des petits appartements de moins de 40 mètres carrés aussi. L'évolution des méthodes de calcul. Donc
merci. Il faut inviter régulièrement Pierre-Marie Perrin, parce qu'il nous fait toutes les transitions. Bravo. ça a été un vrai sujet, les petites surfaces, Simon Corteville. Mais je sais que vous êtes très au fait de cette problématique. Vous avez beaucoup évolué, l'outil a beaucoup évolué. Où est-ce qu'on en est maintenant pour les petites surfaces, qui étaient un petit peu les dindons de la farce, si je peux dire les choses comme ça, où ils se voyaient afficher une note extrêmement dégradée qui ne reflétait pas réellement la réalité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, alors ce qui se posait sur les petites surfaces, c'est qu'on concentrait en beaucoup moins de mètres carrés, finalement, beaucoup plus d'usage, parce que finalement, qu'on ait un grand appartement ou un petit, on a toujours un chauffe-eau.
Enfin, c'est clair.
Voilà. Donc c'était un peu ça, c'est l'effet. Et en fait, la méthode de calcul, donc en fait, la lettre qui va être affichée va être adaptée pour que ça ne pénalise pas. Donc, globalement, si on avait une petite surface qui était en étiquette F ou G, elle pourrait se voir revalorisée en étiquette E, par exemple, et sortir de passoire, parce que la méthode d'analyse, de calcul, de détermination, a été ajustée pour tenir compte justement de cette spécificité et ne pas pénaliser sur les petites surfaces.
C'est un progrès, Pierre-Marie ?
Moi, je pense qu'on s'adapte à la réalité, effectivement, et ça fait sortir 140 000 logements du statut de passoire thermique. Ça va les faire sortir. Après, en revanche, il ne faut pas que ça repousse l'objectif de 2025, 2028 ou 2034. Donc, il va falloir continuer à innover, continuer à trouver des solutions pertinentes et percutantes afin de réussir la rénovation énergétique de ces logements. Mais ça prendra un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est un principe de réalité. Il faut l'assumer.
Dernière question, Guillaume.
Oui, une toute dernière question, on ne l'a pas dit. MaPrimeRénov' CoPro, elle est donc cumulable avec toutes les aides à disposition. Et je pense notamment,
même topo, on peut avoir des C2E.
Les aides locales.
On peut avoir C2E, aides locales, des prêts.
Aides locales, départementales, régionales, et tout est additionnable.
Et cumulable. Aussi.
Et l'éco-prêt à taux zéro, voilà.
Le reste à charge.
Et l'éco-prêt à taux zéro. Il y a un éco-prêt à taux zéro CoPro ou il y a un éco-prêt à taux zéro individuel?
Il y a eu un texte qui est arrivé le 1er avril.
Il y a un éco-prêt à taux zéro CoPro.
Et on est en train de travailler pour le simplifier au maximum. Mais de toute façon, ce qu'on évoquait, il y a une étude au début. Et l'étude, l'intérêt de cette étude, c'est la première chose à lancer. Ça donne quels travaux, quel financement, et pour permettre à chacun de se projeter dans combien je vais payer.
C'est facile l'éco-PTZ à obtenir ou c'est compliqué?
En CoPro. De plus en plus facile.
D'accord.
Le gouvernement souhaite le faciliter. C'était compliqué. Il y avait peu de personnes qui arriver à avoir un éco-PTZ.
C'est bien les bruits que nous avions, effectivement.
Et aujourd'hui, ça simplifie, c'est très bien. Et puis surtout, le dispositif a une longueur d'avance, entre guillemets.
On fait comment pour avoir un éco-PTZ?
Et on peut avoir jusqu'à combien? On fait comment et on peut avoir jusqu'à combien?
C'est 50 000 euros pour une rénovation globale.
Et ça se passe comment? Alors, donc, comment on va aller voir la banque. On lui dit quoi? Je veux un éco-PTZ?
Exactement.
Même pour une CoPro?
Alors, pour la
CoPro. Parce qu'on est dans la CoPro, là.
Pour la CoPro, on a l'étude du début. La personne qui fait l'étude, on lui demande, et c'est elle qui va pouvoir...
D'accord. En général, il y a un syndic qui est censé quand même un peu être au courant, qui est un peu le maître d'œuvre de tout cela. Mais c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que le banquier, il est au courant. Il sait ce que c'est qu'un éco-PTZ.
On est en train de travailler. Alors, l'éco-PTZ existe, et c'est... on l'améliore.
Parce que c'est un prêt au zéro quand même.
On le simplifie aussi de mois en mois et d'année en année, surtout. Oui. Et notre objectif, c'est vraiment de le coupler avec l'aide. Et l'objectif dans les mois qui viennent, mais je fais un peu de teasing, c'est qu'on arrive avec, l'ANA nous a dit, il y avait 1 million d'euros de travaux pour la copropriété, on a 300 000 euros d'aide, il reste 700 000 euros à financer, je vais voir le banquier, je lui donne le document, et le banquier il dit, ok, je vous fais le prêt pour les 700
D'accord,
000 euros.
D'accord, bien sûr.
Ça c'est l'objectif. Ce qu'on a fait pour les maisons l'année dernière, individuelles, et l'objectif c'est vraiment d'aboutir à ça, dans les mois qui viennent. Je fais du teasing, on a encore quelques mois avant que vraiment le process
soit
totalement...
Mais le sujet, c'est effectivement quand même de sensibiliser les banques à l'éco-prêt à taux zéro, parce que ce n'est pas forcément un outil, même si elles commencent à s'y mettre, mais c'est un vrai sujet de formation, de pédagogie, et de pouvoir travailler l'ensemble des interlocuteurs et des acteurs sur cette question-là du reste à charge, qui est une vraie question, notamment avec la hausse des coûts des prix des matériaux, qui est un vrai sujet, et puis la question également de la qualification des artisans. Enfin, il y a beaucoup de choses... Qui rentre en compte, mais c'est un sujet dont on doit parler.
Messieurs, vous êtes au top, parce que j'ai tout compris, et ouais. Pour que je puisse tout comprendre, il fallait faire fort. En tout cas, non mais, trêve de plaisanterie, c'est quand même très compliqué, je le sais pour vous aussi, de lire de façon cohérente toutes ces aides. Et là, effectivement, tendance à la simplification, je suis allé sur le portail d'ailleurs, de France Rénov', franchement bien, très lisible, très fluide, la simulation du calcul est aussi très facile à faire, et c'est après que ça se complique un peu, hein, quand même, exagéré, mais quand même, c'est beaucoup d'efforts que vous menez, et ça, il faut bien sûr le montrer. Merci à vous,
merci
Simon Corteville. Je rappelle que vous êtes le responsable du service politique d'adaptation et de rénovation énergétique à l'Agence nationale de l'habitat. On vous retrouve sur ana.gouv.fr. Le site, bien évidemment, pour avoir toutes les infos. C'est extrêmement pédagogique. Et vous retrouvez les dossiers, les aides. Allez-y, franchement, c'est vraiment bien. Merci à Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques. On vous retrouve sur helio.com, le site, pour toutes les opérations. Alors vous avez la particularité, c'est que vous avez Overview. Vous financez les collectivités publiques aussi, puisque vous occupez de rénover. Vous avez rénové il n'y a pas longtemps, je crois que c'est un gymnase à Laval.
Une école.
Une école à Laval. Formidable dossier. Je crois que ça va se développer de plus en plus. Vous vous intéressez au logement résidentiel, les copropriétés, le marché individuel. Vous êtes un acteur aujourd'hui déterminant. On vous retrouve facilement sur Internet. Merci également d'être passé par le plateau de Capital.
Merci
et de Radio Immo sur le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. On va écouter nos experts. À tout de suite.
Ça vous concerne.
Eh bien voilà les amis, ça vous concerne. Deuxième partie dans votre 58e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On va parler avec une agente immobilière.
Un agent immobilier, mais tu peux dire une agente.
Voilà, une agente immobilière est certainement l'une des meilleures en Ile-de-France, puisqu'elle dirige l'agence avec son nom éponyme.
Attention.
C'est Anne Boucaud-Basso. Bonjour Anne Boucaud. Qui dirige l'agence Boucaud au Plessis Robinson. Voilà.
Au Plessis Robinson.
Voilà, ça me bouge. Voilà, parce que, en fait, les amis, pour tout vous que vous sachiez, je confonds souvent le Plessis Robinson et le Plessis Trévis. C'est exactement à l'opposé. Donc, merci, Anne, d'être avec nous pour cette réponse aux questions. Des réponses aux questions, Guillaume, quand même un peu particulières.
Ouais. Très particulière. Donc, on a une première question d'Alexandre du groupe Facebook Les Clubs de Proprio. Alexandre est en recherche d'appartements en banlieue lyonnaise. Et sur les annonces qu'il consulte, il a à chaque fois indiqué le nombre de lots que comprend la copropriété. Et lui, Alexandre, il ne comprend pas bien ce que c'est que ces lots. De quoi s'agit-il? Comment décrypter?
Alors, en vertu de la loi Allure, on nous demande d'indiquer le nombre total des lots de la copropriété. Et donc, par rapport à ça, on fait une distinction entre tous ces lots-là qui indiquent, en fait, et qui reprennent les lots annexes. Donc, ça peut être les caves, les parkings et tous les lots de la copropriété et les lots individuels qui concernent vraiment les lots d'habitation. Donc, nous, on nous demande d'afficher le nombre total de ces lots-là, mais on fait une distinction aussi sur les annonces. On peut aussi voir le nombre des lots d'habitation et le nombre total des lots de copropriété.
Ça, c'est à la discrétion de l'agence. Ce n'est pas toutes les agences qui le précisent, le nombre de lots d'habitation, la distinction aussi.
De plus en plus d'outils CRM font la distinction pour justement pouvoir permettre de l'indiquer. Mais sur la loi Allure, en fait, on nous demande d'indiquer donc ce nombre total. Et il y a également d'autres informations qu'on nous demande d'indiquer.
Comme quoi ?
Si le bien se situe dans une copropriété, donc de bien indiquer qu'il s'agit d'un lot de copropriété. Également, le montant annuel des charges de copropriété. Et ça, je trouve que c'est important parce que on informe l'acquéreur de cette donnée-là. Mmh. Et s'il y a des procédures en cours, Guillaume, type une procédure pour une malfaçon dans l'immeuble ou s'il y a des copropriétaires défaillants, on doit indiquer cette mention quand il y a une procédure judiciaire dans la copropriété. L'information doit être spécifiée noir sur blanc sur l'annonce.
D'accord, donc c'est très clair. En tout cas, pour préciser pour Alexandre, s'il est indiqué le nombre de lots totaux ou globaux sur l'annonce sans précision habitation, pas s'inquiéter s'il y a un nombre important de lots. Ce n'est pas forcément une grosse copro, ça implique tout, et aller voir l'agence qui taillera tout ça.
Parfois, c'est vrai que le retour qu'on peut avoir, c'est il y a 250 lots, c'est une énorme copropriété, mais finalement, tu as 72 lots d'habitation. Donc, c'est surtout ça qu'il faut voir.
D'accord. Une deuxième question de Myriam qui vient d'acheter un appartement à Grenoble. Après la signature de l'acte, elle a découvert que le parquet, alors elle vient d'acheter en fait, que le parquet était endommagé. Mm-hmm. Elle ne s'en était pas rendue compte lors de la visite car celui-ci était caché par un tapis. Donc c'est une fois qu'elle a acheté qu'il n'y avait plus de tapis. Alors, elle se demande comment agir et en fait, s'agit-il d'un vice caché ? C'est ça, en fait, ce qu'elle veut savoir.
Ok. Voilà. Donc ça, ça fait aussi partie des questions qui peuvent arriver. Alors, la notion de vice caché, comme son nom l'indique par définition, il faut qu'il soit caché. Et l'article 1641 du Code civil nous indique que le vice soulevé, en fait, doit vraiment rendre le bien impropre à sa destination ou à son usage. Et donc en diminuer sa valeur et que en gros l'acquéreur, en ayant connaissance, ne l'aurait pas acheté en fait dans ces conditions ou aurait diminué drastiquement le prix. Ouais. Donc là, dans le cas de Myriam, je pense qu'on peut plutôt, c'est pas forcément le bon support juridique d'indiquer le vice caché, mais finalement, ça serait plutôt de se fonder sur l'obligation d'information du vendeur. Donc, tout vendeur a vraiment cette obligation de donner toutes les infos sur son bien et éventuellement la notion de vice de consentement d'ol, si vraiment on part du principe que volontairement le vendeur a choisi de dissimuler, par exemple, cette grosse tache sous un tapis pour retenir en fait sa faute dans le cas de figure là de
Mais c'est de Myriam. C'est entendable, il peut obtenir gain de cause.
Tout à fait.
Dédommagement.
Si on arrive à prouver finalement que le vendeur n'a pas donné toutes les infos, oui. Par contre, dans le cadre d'un vice caché, ça va plus concerner la tuyauterie par exemple ou un faux plafond, quelque chose qui est, comme son nom l'indique, complètement caché. À voir après si le vendeur en avait connaissance ou pas, en fait.
Merci, Anne Boucobasso.
Merci à toi.
Que vous avez votre agence au Plessis
Robinson.
Le grand rendez-vous de l'immobilier.
Merci d'avoir suivi ce 58e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On est ravis d'être avec vous. Comme chaque mois depuis pratiquement 5 ans maintenant, vous pouvez le podcaster, vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez le stocker, l'écouter en partie, vous faites ce que vous voulez. Il est disponible sur capital.fr et Radio Immo, bien évidemment. Prochain rendez-vous dans un mois, Guillaume.
Oui, on se retrouve exactement le vendredi 17 mai. Et d'ici là, portez-vous bien.
Prenez soin de vous, portez-vous bien. Voilà, les beaux jours arrivent, profitez-en, sortez, faites un bon barbecue et on se retrouve pour vos conseils immobiliers le mois prochain.
Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur Radio Immo et capital.fr.